Radio Spirale. En juillet 2010, la librairie Olivieri recevait Dany Laferrière à l'occasion de la parution de son dernier roman, Tout bouge autour de moi chez Mémoire d'Encrier.
Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième édition d'Haïti en folie. On est honorés d'avoir avec nous nul autre que le Médicis 2009, Dany Laferrière. Je vous demande de l'applaudir très chaudement ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec nul autre que celui qui a failli laisser sa peau, là, en Haïti. Ah non, c'est sérieux? Dany aurait pu ne pas être...
Ils sont déjà là, pas besoin d'en
mettre. C'est ça, oui. Donc, non, mais c'est sérieux. Parce qu'aujourd'hui, non, mais sérieusement, sans rigoler, on aurait pu être en train de faire un hommage posthume à Dany aujourd'hui. Je veux pas mettre ça très, 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 très dramatique. Mais donc, c'est pour vous dire que on est très content de t'avoir vivant avec nous, Dany. Merci encore pour tout ce que tu fais pour cette culture et la culture québécoise, la culture haïtienne, de faire rayonner ça partout sur la planète. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, Dany Laferrière, moi, je m'éclipse, je suis comme vous.
Bon, merci. C'est, vous savez, la mort n'a pas d'adresse. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. De toute façon, d'ailleurs, pour la mort en Haïti, il y a beaucoup de gens qui ont profité pour mourir durant le tremblement de terre, mais qui étaient déjà programmés. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas mettre tout sur le dos du séisme. Hein? Donc, j'ai toujours pris cette affaire avec distance, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de moi. Comme disait Mark Twain, il disait, vous savez pas pourquoi les gens rient à la naissance de quelqu'un et pleurent à la mort, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'eux. Donc sinon, hein, on était pris là-dedans. Et je suppose que ce sera une petite conversation du dimanche, sans plus ni moins, où je dirai sûrement les mêmes choses que je dis depuis des années. Il faudra que je pense à renouveler mon truc, les thèmes de mes interventions. Mais je n'en ai pas beaucoup. J'ai toujours cru que la réflexion se fait en boucle, et qu'on doit revenir sur le terrain déjà connu et avancer d'un mouvement, d'une sphère, ou comment on disait ça, en spire, c'est ça, oui, quelque chose comme ça, un seul à la fois, et toujours revenir là d'où l'on vient. C'est un peu ma théorie esthétique. Et mon éthique aussi, je ne sais jamais quitter l'endroit qu'on vient de passer, toujours revenir pour avancer, et ce mouvement-là m'a toujours intéressé, ce qui fait que les gens qui me connaissent déjà doivent en avoir marre et de m'entendre dire les mêmes choses, et je souffre de cela aussi en lisant Borges, mon écrivain préféré, parce que j'ai jamais vu un radoteur pareil. Il répète inlassablement les mêmes choses avec le même enthousiasme. Et pour quelqu'un qui le connaît, comme moi, comme il avance de la même manière, et on apprend toujours quelque chose de neuf, mais sur quelque chose qu'il a déjà dit. Et soit par une information ajoutée, ou bien par une façon autre de dire la même chose. Et je crois avec Borges aussi que nous ne sommes porteurs que de deux ou trois petites choses. Les gens qui en ont beaucoup, et ça marche pas, il s'éparpille. Je me souviens d'ailleurs d'un grand publicitaire, Blenstein, quelque chose comme ça en France. Il disait, moi, j'ai rien, j'ai eu une petite idée un jour, et j'en ai fait un empire, et j'emploie des gens qui en ont une chaque jour, une nouvelle. Donc c'est cela, les gens qui fouillent toujours la même idée finissent par un jour tomber sur une pépite nouvelle. Et c'est ainsi que je vois un peu les choses. Et tout à l'heure, en venant ici, avec ma femme, comme toujours, je discute avec elle dans la voiture. D'ailleurs, on a parlé de Carrie Hector, qu'on disait, justement, on ne l'avait pas vu, et je lui disais non, Carrie Hector est toujours au travail. Je l'avais rencontré au Cap dernièrement, au Cap Haïtien, en Haïti, où il se démène pour les étudiants. Et je lui faisais part de ma réflexion sur la passion, parce que depuis ce matin, comme je suis toujours bombardé par des gens qui m'envoient des courriels me disant quand est-ce que je vais faire de la politique, alors que je ne fais que ça de toute ma vie, et donc j'essaie de savoir quel est le lien entre ce que je fais et la politique, et quel est le lien entre et j'ai trouvé que le lien, c'est la passion. Pour moi, la seule révolution possible, et c'est la passion qui peut l'apporter. C'est-à-dire, c'est seule la passion nous fait continuer à faire ce que nous faisons, et pour finalement le faire le mieux possible. Et la seule chose subversive qui soit, c'est le bien faire. Pour moi. Et j'ai connu beaucoup de jeunes gens, et quand j'ai commencé au début des années 70, et qui était plus fougueux politiquement, qui avait des réflexions et aussi une action. Enfin, et tout cela a fini des fois dans la politique politicienne, et puis d'autres fois, parce que c'était une passion portée par les autres. C'est les autres qui leur demandaient, et pourquoi pas, et pourquoi vous ne faites pas ça, et pourquoi on ne vous voit pas. Ils finissent par être portés par la passion des autres. Et je crois que la seule passion qui vaille quand même, c'est celle que nous avons en nous, et qui pourrait s'ajouter aux passions collectives, aux multiples passions individuelles qui bourgeonne sur la surface de la terre, et c'est cette passion-là qui fait qu'on passe sa vie à répéter inlassablement les choses, tout en espérant trouver une pépite nouvelle. C'est ce qui fait que je suis encore à faire les mêmes choses que je faisais à 20 ans, et chaque jour, c'est-à-dire prendre la plume et essayer de voir si je peux trouver et un rythme et une musique, si je peux arriver à faire coïncider ce que j'ai dans la tête avec ce que j'écris. C'est un effort constant, et espérant un jour que, pas la phrase que j'ai en tête, que la sensation que j'ai dans la tête, et je puisse arriver avec des mots à faire en sorte que j'imprime cette sensation-là et directement. Naturellement, je n'y parviens pas, c'est pour cela que je continue. Et cette passion-là, j'en suis tellement obsédé, m'habite tellement, eh bien, qu'elle finit par m'occuper, et pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal. Vous voyez, si on pouvait inoculer des choses comme ça, on aurait moins de dictateurs. Inoculer une passion. Une passion, une vraie passion qui n'est pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça, les dictateurs, ils se laissent porter par la passion des autres. Et à un moment donné, ils se fâchent, ils finissent par imposer leur volonté, croyant que c'était eux qui gouvernaient, et voyant que ça résiste, eh bien, et ils doivent charger des sbires pour régler ça, pour mettre les gens au pas. Et si les gens étaient habités par leur propre passion, je crois qu'on arriverait à cette révolution, c'est-à-dire, à ce qui vaille, un monde meilleur. Et j'avais pris aussi, vaille que vaille, parmi les choses qui m'ont toujours habité, cette petite équation, qui est en fait une addition tout simplement, que j'ai mis là, je vois, lecture plus écriture égale littérature. C'est bien de le dire dans une librairie, mais c'est aussi simple que cela. Et lecture plus écriture égale littérature. Et c'est ce qui fait que, par exemple, beaucoup de gens me disent, ah, moi, j'écris quand je vais dans une librairie, non seulement je me sens intimidé, mais en plus, je suis jaloux de tout ce qui s'écrit. J'ai jamais été jaloux de voir des livres. Parce que je pense que je les ai tous écrits. Et c'est tout à fait cela. Chaque fois que j'ouvre un livre que je n'ai pas ouvert, n'existe pas. Et chaque fois que je l'ouvre, c'est moi qui puisque je vais le faire vivre, puisque le but du livre, c'est de faire en sorte que quelqu'un l'ouvre. Il faut prendre ça sur un plan magique. Et c'est quelque chose que c'est une pas une fantaisie, c'est cette passion dont j'ai parlé là, on finit par les mettre en mots, et qui est tout simplement la passion de rencontrer l'autre. Et cette passion se retrouve dans une librairie, dans une bibliothèque, chez des gens, et un jour comme ça, et souvent par hasard, et quelqu'un l'ouvre. Et si le coup de foudre se passe, eh bien on chemine ensemble pendant des années, parfois pendant une vie. Et il me semble que c'est magnifique. Et cela n'a rien à voir ni la race, ni la classe, ni même les frontières, ni les lieux, ni l'espace. Parce qu'un livre voyage, moi-même j'ai trouvé des livres, vous savez, quand on voyage dans les avions, les pochettes là où l'on trouve généralement les magazines, il m'arrive de trouver des livres et d'en mettre moi-même, trouvant que j'ai trop de lecteurs dans un petit espace restreint qui sont ma famille et les gens qui me lisent, alors je fais la propagande en glissant des livres, de mes livres, hein, en espérant avec mon courriel, mon adresse courriel, si jamais vous trouvez un, vous me dites. J'ai pas beaucoup de réponses, mais je suppose que ça file. Est-ce une raison pourquoi je ne change pas d'adresse courriel, espérant un jour? J'ai pris une note aussi que, naturellement, je n'arrive pas à lire. C'est incroyable, hein. J'ai vu dernièrement dans le journal qu'il y a les pharmaciens c'était en Haïti ou ici, protestaient contre l'écriture. C'était ici, l'écriture des médecins. j'ai trouvé que c'était bien. Et quand est-ce que je vais protester contre ma propre écriture? Parce que je n'arrive pas à lire la force. Ah bon, je viens de trouver ça. Quelque chose. Je suis vraiment dans cette vibration ce matin, et c'est écrit la force de la nuance. Voilà une autre de mes passions, la nuance. J'arrive pas à me défaire de cette obsession que la nuance est la chose la plus subversive, celle qui touche le plus profondément les gens. Elle demande d'abord de croire à l'intelligence de l'autre. Et elle demande de croire à, disons presque à la démocratie, à l'idée que la vérité peut être multiple, qu'elle peut prendre des sens différents, et qu'une même chose, d'ailleurs, une phrase banale, simple, le ciel est bleu, peut, suivant la réception, suivant le contexte, suivant même la personne, peut être reçue différemment. Elle demande de croire à cette prédisposition, que l'autre a sa sensibilité, qu'on n'est pas obligé de partir du principe qu'on est celui qui apprend quelque chose à l'autre, et que cette chose qu'on tente de dire ne devient riche que quand elle s'infuse ou pénètre chez quelqu'un d'autre, et que le travail continue, qu'il y a une ébullition, et que cette personne finit par incuver, comme du vin, ça reste à l'intérieur de lui-même, et que ça finisse par, en espérant sortir différemment, et tomber dans d'autres sensibilités. Enfin, je crois que si on ne martèle pas, si on ne cherche pas à intimider le lecteur, quel qu'il soit, on finit par permettre une sorte d'intensité, pas créée dans l'idée qu'on essaie de faire circuler, une sorte d'intensité qui s'apparente à la vie, et cette intensité ne peut que s'il y a la nuance. Parce que la nuance, c'est comme des petites piqûres, des petites épingles, et ça finit par donner une sorte de vie à ce qu'on essaie de dire, et c'est cette vie-là qui va, en s'implantant chez l'autre, qui va trouver un prolongement chez l'autre. Parce que c'est toutes ces myriades de petites piqûres, de petites épingles, toute cette myriade de petites fenêtres d'alvéoles, et ce sont des portes de sortie pour que quelqu'un d'autre puisse s'échapper. Quand on écrit ou quand on évoque des idées dans des pièces fermées, closes, et qu'on arrive, celui qui vous reçoit n'arrive pas à respirer. Et quand cela s'accumule, il y a un malaise qui se crée. Et ce malaise-là, c'est quand l'esprit n'a aucune porte de sortie. Il n'y a rien de plus extraordinaire que quand, même quand on évoque des idées, nos idées, celles qui nous passionnent le plus, c'est de laisser une petite porte ouverte et pour que l'autre puisse soit entrer, s'y engouffrer, soit, ce qui est encore mieux, en sortir. Une idée est d'autant plus forte que quand on la lit, on a l'impression qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette idée. Et ça révèle un auteur confiant. Il donne la possibilité. Et cette confiance-là, naturellement, est une façon de convaincre. Il n'y a rien de mieux. Hein. Si quelqu'un vous martèle, on se dit, bon, c'est qu'il a peur. Et si quelqu'un vous donne la possibilité, je me souviens, il y a des gens qui poussent ça très loin. Borges racontait que dans une discussion, il faut toujours donner des arguments à l'autre contre ses propres idées. Il me semble qu'une telle élégance finit par charmer. Donner l'argument à l'autre, au lieu de chercher des arguments pour ses idées, chercher les arguments pour l'autre. Et à un moment donné, ça finit par faire un éclat, un sourire, et ça détend et ça peut... Parce que finalement, il n'y a pas que les idées, il y a le courant de sympathie dans une discussion qui passe. Moi, la plupart du temps, quand je refute des idées, c'est parce que je refute la personne. Et souvent, je suis pas d'accord avec une personne avant même les idées. Et souvent, je suis d'accord avec quelqu'un avec lequel je suis pas d'accord avec les idées. Et ça arrive, il y a des gens, on est d'accord à ce qu'ils disent, mais on est buté. On ne voudrait pas partager les mêmes idées que cette personne. On ne voudrait pas partager les mêmes idées. Parce que s'il n'y a pas que les idées qui comptent, il doit y avoir aussi quelque chose, une émotion, une chaleur, quelque chose de plus. Si seulement les idées comptent, alors on va se retrouver précisément dans une certaine intolérance. Les idées sont portées par des humains. Et ben bizarrement, dans ma petite note d'épicerie du dimanche, j'ai écrit le bonheur de sortir du paysage. Et je sais pas pourquoi ce thème-là, mais il m'a semblé. Et j'écrivais ce matin, comme j'ai réécrit. Et les choses que j'écris, même les livres, je suis en train de réécrire, tout bouge autour de moi. J'adore réécrire. Réécrire même la vérité, parce que tout bouge, hein, c'est des notes que j'ai prises et au moment même du séisme. Hein, ça devrait être sacré, on ne touche pas à ça. Eh bien, j'y touche. Et parce que c'est pas vrai, je ne crois pas dans la vérité des faits. Je crois que les faits sont toujours portés par des gens et par des sensations du moment. Je crois que 6 mois plus tard, je peux retrouver encore plus de vérité dans ce que j'ai vécu que la transcription immédiate des faits au moment où ils se passent. Je ne crois pas dans cette façon d'intimider et de dire qu'on note exactement ce qui se passe, et puis c'est la vérité. Je n'y crois pas une seconde. Je crois au moment où l'on note, par exemple au moment où je notais ces images, quand j'écrivais et prenais des notes à Port-au-Prince, et j'étais toujours moi-même, c'est-à-dire faillible, et je les notais avec l'émotion du moment, et je crois que je peux retrouver ou ajouter. Je crois dans la vérité par accumulation. Et c'est pour ça que je crois que la littérature est plus vraie et que le journalisme, et précisément parce que le journalisme ne peut pas revenir sur la déclaration que quelqu'un lui a fait, on ne peut pas, hein. Et ce serait mieux de pouvoir écrire le ministre a dit ceci et puis d'écrire une parenthèse, il aurait dû dire après avoir étudié sa biographie attentivement et ce qu'il avait déclaré dans le temps. En fait, il aurait dû dire ceci, et tout en lui donnant la possibilité même de revenir sur les deux déclarations, celle qu'il a dit, celle qu'il aurait dû dire, et celle qu'il pourrait dire à propos de ces deux déclarations. Donc, c'est-à-dire, je crois dans la vérité par accumulation. Je crois que tout est toujours vivant, tout organisme, la vérité est un organisme, et ne peut être vivant que si on accumule, on accumule, on accumule, et à un moment donné, ça prend vie malgré nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit par ne plus savoir où était l'émotion du moment. on finit par voir que les choses se dessinent malgré nous, par sortir du paysage. C'est ce que j'appelle sortir du paysage. C'est-à-dire, à force d'écrire, la première fois quand on commence, quand on raconte une histoire, quand on raconte un fait, quand on décrit quelque chose, on décrit ce qu'on voit à partir de soi. On revient plus tard, maintenant on pense à ce qu'on a décrit, on voit, et je crois qu'on ne peut pas dire la vérité sans le mensonge, que le mensonge fait partie intégrante de la vérité. Le mensonge esthétique, on met quelque chose, on met un autre angle, on y ajoute ce qu'on a rêvé, ce qu'on aurait rêvé de dire, hein, ce qu'on fait généralement, hein. Il y a toujours les gens qui nous emmerdent, on aurait dû leur répondre ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? Deux heures plus tard, on pense, voilà ce que j'aurais dû lui dire. Et naturellement, on rencontre quelqu'un et on lui dit, voilà, il nous a dit ça. Et on a répondu ça. On n'y a pas dit que c'est deux heures plus tard qu'on a fait cette réponse. Et la personne vous dit, mais comment ça se fait que vous trouvez la bonne réponse et moi pas? Eh bien oui, mais c'est parce que je préfère mon rêve jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête et je crois vraiment que je l'ai dit. Ma femme me dit toujours, mais comment ça se fait que tu as la répartie aussi vite? J'ai dit, mais elle n'est pas vite. Hein. J'y pense tout le temps à ce que je pourrais dire si on me demande ceci. J'ai jamais répondu spontanément à quoi que ce soit puisque j'y pense et tout le temps. J'ai toujours des dialogues dans ma tête, alors j'ai fini par en sortir un rapidement et ça impressionne. Un dialogue sorti rapidement, on croit toujours que c'est la vérité. Alors donc, je crois que quand on accumule les informations vraies et fausses, c'est-à-dire fausses, c'est-à-dire celles qui viennent de l'imaginaire, qui sont aussi puissamment vraies, puisque nous sommes tissés de rêves, on finit par créer quelque chose hors de nous, et c'est ce que j'appelle sortir du paysage. Et on est tellement effaré, et c'est ce qui nous donne le goût de nous lire. Parce que si c'est nous qui parlons, on n'a aucun intérêt. Si nous parlons seulement le jour, c'est-à-dire dans la lumière du jour, il faut parler aussi dans la lumière de nos rêves. Et les mettre ensemble et en ajouter d'autres et en ajouter d'autres jusqu'à ce qu'à un moment donné, on devienne étranger à ce qu'on a écrit. Et là, c'est ce qu'on appelle sortir du paysage. J'avais un truc encore. Vous voyez, hein, c'est tout à fait disparate. C'est comme ça que j'écris tout le temps, des petites choses. Et j'ai écrit « Le temps pris à écrire nous revient à la fin ». Et j'espère parce que c'est l'été, il fait si beau et moi je passe mes journées enfermées. Mes amis, Gilas Roca n'arrête pas de me bombarder de courriels pour me voir et je voudrais bien, avec plaisir. Et Hélène qui vient d'arriver veut me voir, mais je peux pas voir mes amis parce que j'écris et il fait beau, c'est l'été et je m'enferme, j'écris. Alors c'est normal que je rêve que ce temps-là me revienne à la fin. Et c'est vrai, les gens qui écrivent beaucoup dans leur vie et qui lisent aussi, et ce temps file entre 40 et 55 ans, 60, et à un moment donné, vers la fin, là où les autres se précipitent dans l'action avec une violence, le temps se met à ralentir. Quand tout le monde dit bon Dieu, vers la fin, il paraît que ça file. Hein. Il y a à peine 5 ans, on a bâti la grande bibliothèque, comme m'a dit quelqu'un hier, en passant devant la grande bibliothèque de Montréal. Bon Dieu, ça fait déjà 5 ans. Et je crois que les gens qui lisent et qui écrivent, vers la fin, au moment où tout le monde, panique devant cette fuite du temps, le temps ralentit pour eux. Et parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, je rêve que le temps, parce que je sens monter en moi une certaine sérénité de plus en plus. J'avais perdu le goût de la longue lecture que je commence à retrouver. Vous savez, on sait bien qu'on n'est pas dans son temps quand on n'arrive pas à lire les livres qu'on a envie de lire. On n'est pas dans son temps. Ce n'est plus notre temps, c'est le temps que les autres créent autour de nous et qui nous pousse ici et là. Et on ne peut pas physiquement. Et puis à un moment donné, brusquement, on passe devant les livres et puis on prend un gros livre qui ne soit pas un polar. Pour que quelqu'un puisse vouloir lire Finnegan Wakes, il faut qu'il soit dans son propre temps. Parce que ce temps-là est un luxe. Et je crois que les lecteurs sont capables de savoir quand ils sont dans leur temps. Et parce qu'ils reprennent des livres qui les avaient touchés, parce qu'ils refusent d'avancer dans la bousculade de l'époque, et parce qu'ils s'assoient lentement avant de commencer un livre, et non, non comme ça, avec trop d'énergie. Et je me souviens d'ailleurs du début de ce livre d'Italo Calvino, je ne sais pas si vous vous rappelez, si par une nuit d'hiver, un voyageur, quand il dit, prenez votre temps, mettez-vous près de la fenêtre, enfin, tout, car vous allez commencer un livre d'Italo Calvino. Ça a pris, je pense, une page et demie ou deux pages pour se mettre dans l'ambiance. Et quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis dans une pareille ambiance avant de commencer un livre, ça veut dire qu'on n'est pas dans son temps. On est dans un autre temps, on lit des livres qu'on vous a demandé de lire, enfin, on est dans un autre temps. Et ce temps-là, il peut nous revenir à la fin, le lecteur chevronné, le temps de croire qu'il y a une vie à lire. Ah, ben, j'avais mis la même chose, j'ai pas besoin, hein, je suis au numéro 7, il y en a 10, hein, ne vous inquiétez pas. C'était écrit, lire et écrire ralentit la vie. Hein, lire et écrire ralentit la vie, et surtout vers la fin, comme aurait dit Woody Allen, il dit, l'éternité est ennuyeuse, surtout vers la fin. Une sérénité au cœur de la tempête. Vous voyez, j'ai pas besoin de développer ça encore, parce que précisément, c'est ce que j'ai vécu en Haïti dernièrement, le 12 janvier, quand, brusquement, j'ai sorti mon carnet noir pour noter ce qui se passait autour de moi, et j'ai senti une grande sérénité. Et parce que j'avais ouvert la petite boîte magique, je n'étais plus avec les autres. Et c'est comme si je n'étais même plus à Port-au-Prince. Je m'étais déplacé. J'étais dans quelque chose qui exige de moi une exceptionnelle concentration. J'étais hors de la fureur et des éléments. J'étais... Parce que écrire vraiment, c'est comme si on est derrière des fois une vitre dépolie et on regarde les autres bouger comme ça. Donc, j'étais même pas à Port-au-Prince, j'étais dans un autre monde qui s'appelle celui de l'écriture. Et donc, je n'étais pas du tout dans l'angoisse des choses qui vont advenir. Et j'ai eu l'impression que pour arriver à vouloir le faire, c'est-à-dire à sortir de ce moment, non seulement tragique, mais quand même extravagant, il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut avoir écrit longtemps aussi, sinon on retrouve pas ce réflexe-là au moment où on en a besoin. Et les gens, nous faisons ce que nous avons toujours fait. Nous faisons ce que nous faisons le plus souvent possible. C'est un peu bizarre, les gens qui disent, si jamais il me restait un an à vivre, je voyagerai, mais vous ne voyagerez pas si vous n'avez pas voyagé avant. Et vous penserez toujours à voyager, vous allez emmerder les gens encore plus. C'est tout simplement, hein, vous allez. Et je parlais du grand village des lecteurs aussi. C'est bizarre, hein. Je vois dans les magazines de plus en plus, de tout le temps, enfin, ça fait 20 ans que c'est comme ça, et de plus en plus les magazines gratuits ou autres magazines, on voit beaucoup d'articles sur la musique rock, sur toujours. Et très peu, de moins en moins d'ailleurs, sur la littérature. Et quand on demande aux gens, ils vous disent, un peu partout dans le monde, les magazines, il y a de moins en moins, voire on avait beaucoup, je me souviens à une époque, il y avait même un cahier. Et puis même ici aussi, il y avait des cahiers dans... C'est bizarre d'ailleurs, le Devoir et la Presse mettent de moins en moins, et même ils mettent maintenant cahier, livre avec quelque chose d'autre en été. Et c'est mince, il y a un article sur un livre au moment où on n'a plus de temps pour lire. C'est étrange, hein? C'est étrange. C'est tout le monde dit on lit en été, on a plus, et il y a moins de papier sur les livres. C'est étrange parce que il y a plus de lecteurs que pour toute autre forme d'art. C'est bizarre. même pour la musique, hein, on a l'impression que les disques, tout, mais les lecteurs, regardez autour de vous, regardez, il y a des endroits où il y a des, souvent, les gens ont toujours un petit endroit où il y a des disques, de tout, on voit de la musique. Mais allez dans les maisons, vous allez voir, il y a, les livres ont toujours accompagné les humains. Une seule fois. À New York. J'ai un ami que j'ai connu en Haïti et j'ai dormi dans une maison sans livre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je suis réveillé dans la nuit un peu, je respirais difficilement. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'ai pas mangé des choses. Finalement, je me suis dit, mais c'est vrai, je n'ai pas remarqué de livre. Pour un lecteur, ça peut créer cela. Et j'ai cherché dans toute la maison, non seulement je n'ai pas trouvé de livre, mais je n'ai trouvé aucune lettre imprimée. C'est incroyable, on dirait la maison du diable. C'est incroyable. Et ce type, hein, il était à l'université. J'ai dit, c'est pas possible. Comment peut-on en arriver là? Et New York peut tuer. Je ne sais pas si vous êtes, même artificiellement, essayé de dormir dans une chambre, si vous êtes lecteur, sans une lettre imprimée. Même un pauvre A. Rien. Et naturellement, peut-être que c'est comme ça qu'on crée des écrivains. J'ai sorti mon carnet, je me suis mis à écrire pour pouvoir lire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai noté cela comme dixième et dernier. Le cœur est un chasseur solitaire. C'est l'un des plus beaux titres de romans que je connaisse. C'est comment il s'appelle encore? Carson McCullers. Le cœur est un chasseur solitaire. C'est incroyable. Juste pour ça, je l'ai mis comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune explication. Et de cela, je voulais écrire ces mots. Je crois que les phrases qui nous touchent, en les écrivant, ça crée une petite fièvre. Et j'ai voulu écrire « Le cœur est un chasseur solitaire » ce dimanche après-midi. Voilà, si vous avez des questions. Vous voyez, j'ai évité la mort. Pas sur ce que je viens de dire, je vous dis ce à quoi j'ai réfléchi, mais si vous avez aussi vous-même quelques réflexions à proposer.
Écoutez, je crois que je peux me présenter, d'abord parce que c'est pas très important et que l'auteur me connaît surtout comme un inconnu. Parce que l'année dernière encore, il m'a dédié un ouvrage assez inconnu. Bon, je dis que je suis quand même un glorieux inconnu parce que je me prénomme Magloire. C'est tout ce que je peux dire. Bon, ça fait un moment que je voulais te poser cette question. On s'est vu à plusieurs reprises ici depuis des années, je ne l'ai jamais fait, j'attendais que tu sois officiellement consacré comme... Si, tu es maintenant célèbre. Avec les autres prix, tu l'étais, surtout en Amérique du Nord.
Allez, il faut dire
même en Afrique, parce que, oui, le dernier livre, je me le suis fait dédicacer pour un ami au Gabon. Voilà. Mais je t'attendais parce qu'il y a 3 ans, j'ai lu dans Ici... Quand, à l'époque, Ici s'intéressait encore à la culture, tu en as parlé tout à l'heure des revues qui tournent le dos à la culture, j'ai lu, je crois qu'on t'avait interviewé, ou tu avais eu un été consacré, vous savez, quand ils faisaient les 10 auteurs, quelque chose comme ça, et puis tu laissais entendre que la pire des choses, c'était d'être un auteur célèbre. Parce qu'un auteur célèbre, c'était extrêmement gênant, parce que je suppose que tu vis le calvaire, là, mais tu as l'air de bien te porter. C'était quelqu'un qui souffrait, parce que il ne parlait quasiment plus peut-être de littérature, mais on lui posait tout le temps des questions, on était constamment en train de le vider, et que c'était horrible. Bon, indépendamment du fait que je connais des gens qui commencent à écrire, lorsque je leur ai présenté ta fameuse interview, ça les a un petit peu découragés, parce qu'ils écrivaient pour être aussi célèbres. Je voudrais savoir maintenant ce qu'il en est de cela, parce que tu as l'air de bien te porter. Et puis, j'espère surtout une réponse spontanée, parce que tu disais tout à l'heure que tu préparais toi, mais...
Mais je ne peux pas répondre spontanément à une question que vous avez préparée pendant des années.
Ah. Donc, j'ai bien eu.
Mais je comprends très, très bien. Et très bien la question. C'est vrai qu'il y a une différence entre écrivains et qui se passe au moment où j'écris ou au moment où quelqu'un me lit, et être un auteur célèbre. Un auteur célèbre, c'est presque même une fonction. La fonction d'auteur célèbre C'est vrai qu'on lui pose toutes sortes de questions. Il y a des gens qui font ça de bonne grâce. Et Zola réunissait les journalistes l'après-midi chez lui, parce que et les gens lui posaient les questions sur toutes sortes de sujets. Et bon, il savait un peu tout. C'était à l'époque où les romanciers couvraient beaucoup. On le voit dans l'œuvre de Zola, que son spectre est très large, que ce soit les questions scientifiques de son époque, politiques, les questions sociales, économiques. Et Zola, sa dimension est vaste. Il répondait aux questions comme s'il était une immense poste de radio. Et les journalistes notaient, et le lendemain, ça paraissait. Mais il faisait quelque chose que je ne ferais pas. Et après, il donnait un livre à chaque journaliste et écrivait dessus la même chose. Merci, Zola. Donc, c'est vrai que, à un moment donné, il y a ce moment précis où, après avoir couru derrière les journalistes pour pouvoir faire diffuser vos idées et permettre à vos livres d'être connus, vous passez un temps à dire non. Et parce que précisément, on veut absolument que vous répondiez à tout ce qui se passe et tout ce qui grouille. Depuis hier, on me laisse plein de messages me demandant qu'est-ce que je pense du fait que peut-être Wyclef Jean serait candidat à la présidence. Il faudra en plus que je donne mon opinion sur quelque chose qui n'est pas officiel, dont on ne sait pas d'où elle vient, et en plus sur un sujet, j'ai jamais fait de prétention politique moi-même, et là, le journaliste, comme il n'a pas l'information, Wyclef Jean n'a pas encore déposé ses papiers, paraît-il, je ne sais pas s'il les ferait, ou si même c'est une nouvelle vraiment, il aura une nouvelle en disant « Daniela Ferrier n'est pas d'accord avec Wyclef Jean ». Alors là, c'est une nouvelle. Et là, ainsi de suite, il y a un autre qui va dire « il n'est pas d'accord avec Daniela Ferrier ». Et là, on dérape jusqu'à ce que Wyclef Jean ne pose pas sa candidature, et puis, vous voyez. Et le pire, c'est que personne ne revient à la source pour dire « écoutez, je me suis trompé, Wyclef Jean ». Non, le débat continue sur la crête des vagues, sur des informations qui n'existent pas. Ainsi va, disons, le journalisme. Quand j'étais en Haïti durant les séismes, des journalistes ont appelé ma femme. Alors, ma femme qui n'a rien à voir avec les médias, qui s'est arrangée pendant 25 ans pour pas être photographiée, alors se retrouve avec... naturellement, elle décroche le téléphone à chaque fois, c'est peut-être moi. Et puis, se retrouve avec quelqu'un qui lui dit « Mais écoutez, madame, est-ce que vous avez des nouvelles ?»« Non. »« Est-ce que vous voulez nous le dire ?» Je dis « Oui, je vous l'ai dit, non. » Mais est-ce que vous voulez nous le dire sur micro? Je dis, mais si c'est non, si j'ai pas de nouvelles. Oui, mais c'est une nouvelle, madame. Tu vois, la pauvre n'avait pas compris que dire que vous n'avez pas de nouvelles, c'était une nouvelle. Alors, c'est elle, la femme de l'arrière, qui dit qu'il n'y a pas de nouvelles. Alors, j'ai dû lui faire un coup au retour de presse pour lui dire, c'est une grosse nouvelle. Parce que, et en plus, copyrighté. Ah non, c'est le doigt, si c'est le doigt ou bien si c'est le soleil qui dit cela, il faudrait que la presse, en disant, selon le journaliste du soleil, madame Laferrière n'a pas de nouvelles. Ah oui, donc il faut, donc c'est très, 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 très compliqué cette histoire. Allez-y, monsieur.
Bonjour, je m'appelle Yves. Juste une question rapide. Vous avez écrit plusieurs romans sur les races entre noirs, blancs. Vous avez écrit aussi un livre disant que vous étiez un écrivain. Ah, ok. Donc, je disais que vous avez écrit plusieurs romans sur les races, sur les noirs, les blancs, et deux, d'accord. Vous avez aussi écrit un roman disant que vous étiez un écrivain japonais. Et j'aimerais savoir, juste maintenant, puisque, aussi avec le fait que, je vous demande quand même votre opinion, puisque Monsieur Barack Obama est président à la Maison Blanche, est-ce que vous pensez que, je pense que c'est dans comment... le deuxième roman que vous avez écrit, c'est...
Cette grenade ?
Ouais, cette grenade, exactement. Vous avez dit que la guerre faisait rage en Amérique. Est-ce que vous pensez que la guerre fait toujours rage en Amérique ou bien les choses ont changé pour le mieux ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais ? Ou est-ce qu'on peut encore faire des changements, etc., etc.
Oui, merci. Est-ce que la guerre fait rage en Amérique ? On voit bien. ont vu la peau d'Obama. Et l'autre jour, il y a je ne sais pas qui s'est fait renvoyer pour une histoire, une femme noire d'ailleurs, et il a fallu qu'Obama lui-même présente des excuses parce qu'une dame s'est fait renvoyer de manière injuste. On se croirait en Haïti. Le président de la République qui doit, alors qu'il doit être le directeur de cette boîte, disons, gouvernementale, qui aurait dû faire les excuses, ou peut-être même jusqu'au bout le ministre en titre de cela. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est lié avec la race, il faudra que Obama intervienne. L'idée, c'est qu'il ne s'occupe pas des choses de l'État. C'est de faire en sorte qu'il intervienne personnellement sur chaque banalité. C'est peut-être dramatique pour la personne, mais c'est une banalité. C'est terrifiant à dire, mais l'injustice est devenue une banalité. S'il faut, à chaque cas racial, que Barack Obama intervienne, eh bien, il n'aura pas le temps de s'occuper de choses. On avait essayé, d'ailleurs, ce sont les deux grands thèmes de l'Amérique, sur le sexe avec Clinton. Mais Clinton est un roué, il a pu gouverner les États-Unis tout en s'occupant de l'affaire Lewinsky et tout en faisant des discussions, j'imagine, un peu difficiles avec sa femme le soir dans la chambre. Il y a Clinton pour faire ça et en même temps forcer les républicains à voter et pour les choses, les lois qu'ils voulaient, puisque c'est ça à diriger. Et faire des compromis et forcer, puisque l'idée c'était tout simplement de montrer qu'il n'était pas, comme on dit aux États-Unis, fit pour être président, c'est-à-dire quelque chose en dehors de la présidence l'absorbait assez, la question de Lewinsky, qu'il ne pouvait pas diriger ou freinait et sa possibilité de gouvernance parce que il avait mis un peu, le système était en branle, les gens un peu divisés, il ne peut pas diriger parce qu'il faut diriger avec des décisions et les décisions doivent être prises en chambre, au Sénat, et il faut arriver à faire en sorte d'avoir des majorités sur les propositions que l'on fait. Et quand les choses sont aussi tranchées, on n'arrive pas à avoir la majorité pour présenter ses projets. Donc, on ne peut pas diriger. C'était ça le but de l'affaire. C'est-à-dire, il ne pouvait pas diriger le pays. Et à ce moment-ci, il aura, dans les sondages, il plongera. Et c'est ce qu'on essaie de faire à Obama là. C'est-à-dire, faire en sorte qu'il soit incapable de diriger, pris dans le piège du quotidien. Et des petites choses, donc la guerre n'arrêtera pas. Merci.
Alors, bonjour Dani.
Oui.
Alors, mon nom est Jean-Claude. Alors, j'étais suivi pas mal en Haïti quand tu étais journaliste au petit samedi soir. Tes articles de reportage, ma femme et moi, c'était un plaisir pour nous de te lire chaque samedi, dans le petit samedi soir, avec Jean Obeira et Gaston Raymond. Alors, on était vraiment fascinés par tes reportages, parce que c'était pour la première fois en Haïti, on avait vraiment un journaliste qui faisait des reportages. Tu étais allé toujours dans les provinces les plus éloignées pour nous rapporter vraiment les dits, les vécus des paysans qui était très loin de nous, dans la capitale. Mais finalement, je n'aurais jamais pu penser que je pourrais découvrir en Dani un romancier, un grand écrivain. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quelle différence il y a entre Dani, journaliste, et Dani, le grand écrivain? Merci.
L'écrivain, on dira, oui. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression de rêver, parce que dans la voiture qui m'amenait ici, où j'ai eu cette conversation avec ma femme, on habite assez loin pour avoir plusieurs sujets. En chemin, on a abordé cette question-là de reportage en province. Et tout à l'heure. Et je lui disais, parce que elle me parlait tout à l'heure de quelque chose, et ça me semblait global. Et comme je ne suis pas, j'ai dit, on ne peut pas avoir d'opinion sur les choses. Je refuse, par exemple, d'opiner sur quelle est la situation en ce moment en Haïti, est-ce que la reconstruction... Bon, dès que le truc prend un aspect global, ça me donne mal à la tête. Je veux entendre des gens qui savent. J'en ai marre de croire parce que quelqu'un était en Haïti et ou bien parce que quelqu'un est haïtien, il a autorité pour dire, pour déclarer n'importe quoi et les journalistes s'en donnent à cœur joie et en lui disant à n'importe qui, pas formé du tout, qu'est-ce que vous pensez de la situation, bon Dieu. On devrait enlever cette question du journalisme. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? On aimerait d'abord savoir c'est quoi la situation avant de penser sur cette situation. Est-ce qu'on pense à la même situation d'abord? Donc c'est très compliqué un pays. On ne peut pas résumer ça à l'opinion d'un quidam qui va nous parler en fait de ce qui l'entoure. Puisque précisément nous, chacun, moi aussi, je ne peux parler que de ce qui m'entoure. Pour que je parle de plus large que ce qui m'entoure, il faut que je m'institue journaliste à ce moment-là. Je suis obligé d'aller regarder plus loin, plus largement. Finalement, les gens répondent sur leur quartier, des fois sur 10 à 12 maisons autour d'eux. Et si ça va bien, et s'ils ont vu passer deux ou trois caisses de nourriture, ils vous disent « oui, la nourriture va bien ». S'ils n'ont pas vu, ils vous disent « ça va mal, il n'y a rien ». Donc il faut arrêter, dès qu'il s'agit des pays du tiers-monde, de croire que tout individu est interchangeable. Il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas, comme partout ailleurs. Est-ce que quand on parle de choses qui se passent à Montréal ou à New York ou à Berlin, et on interview n'importe qui? Si on le fait, on dit ça s'appelle un micro-trottoir et personne n'écoute. Hein? On écoute les gens dans les micro-trottoirs que pour rire. Personne ne sait qu'il sort là de la vérité. On sait très bien, peut-être, s'il y en a beaucoup comme ça, de même réponse, on sait peut-être que ça donne une indice de ce qui se passe dans la société. Mais personne n'écoute. On veut savoir. On veut des faits. Donc, il est temps d'aller savoir. Alors, c'est ainsi le principe pour nous à l'époque. Je disais, et Fardin m'avait demandé de regarder un peu le journal. Je lui ai dit, il nous faut arrêter de dire... sans quitter Port-au-Prince, sans quitter la salle de rédaction, ce qui se passe en Haïti 1. Donc, il fallait faire des reportages en province. Donc, je lui avais présenté ce projet-là d'aller en province. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure encore à ma femme que on n'était pas formés. On allait là, moi, je faisais mes reportages, étaient trop littéraires, les choses. Mais quand même, malgré tout, on finissait par glisser quelques informations qui faisaient la joie de Carrie Hector à Montréal à l'époque. Parce que, pour une fois, il avait une idée de ce qui pouvait se passer dans une ville de province d'Haïti. Pour une fois, l'information n'était pas concentrée non seulement à Port-au-Prince, dans le carré qui se trouve autour du palais, mais entre 10h du matin et midi, puisqu'il n'y a aucune information à partir de 2h, il n'y a pas de nouvelles. Il y a des pays comme ça, hein, l'information s'arrête. C'est comme nous, hein, dès que la bonne température arrive à Montréal, l'information s'arrête. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de voile, il n'y a plus rien. L'information s'arrête à la première chaleur, aux premières salades qui peut se prendre sur une terrasse sur Saint-Denis. Et Montréal s'arrête pendant 3 mois. Il n'y a personne qui se fâche. Il n'y a aucun débat, aucun homme politique qui arrive à soulever un débat identitaire. D'ailleurs, l'identité québécoise change. Ils sont tous noirs, ils s'occupent que de jazz, de rire, et puis de marcher torse nu. Donc, ils ont déjà changé d'identité. On ne peut pas retrouver l'identité d'hiver qui fait débat, pensée, réflexion. Donc, l'information, je suis toujours impressionné comment elle peut s'arrêter et à des moments précis de la journée. Donc je me suis dit, il fallait, et le point de vue, il y a peut-être des gens qui connaissent Gassner et qui connaissent mon rapport avec Gassner, on était complètement opposés. J'ai dit, Gassner, tu ne peux pas dire que Duvalier a fermé 9 classes dans cette école quand l'école n'en a que 6. Il dit, tu nous pousses à d'abord, parce que moi c'était, j'ai dit, mais moi, pourquoi ne pas dire 3 classes comme c'est la vérité? Donc j'avais dans ma tête, la vérité est subversive, tout ça. Il me dit, mais je ne suis pas journaliste, je suis un militant. J'ai dit, mais va militer ailleurs. Donc, on avait ce débat-là, mais c'est un débat discutable encore. Est-ce qu'on peut faire, et quand il y a une dictature si violente, Est-ce qu'il ne faut pas mentir sur les dictateurs? Moi, je pense que non, parce qu'il ne faut pas faire perdre confiance dans ceux qui... Il y a toujours... Ça, c'est de mon idéalisme. Je crois toujours qu'on peut arriver à convaincre en disant ce qui est vrai dans le sens... Je crois toujours qu'à l'intérieur même du système de Duvalier, il y a un type qui est pas que moins pourri, mais qui est plus sensible à la réalité. Et moi, je disais toujours aux gens, si tu veux vraiment attaquer le système, dites du bien d'un ministre, au moins une fois. Au moins, il y a un type qui arrive au palais, ou bien il y a un type qui se dit... Parce que il n'y a pas connivence totale. C'est pas monolithique. Même à l'intérieur de cela, il y a toujours des gens qui disent, mais là, vous exagérez quand même. Et si, à un moment donné, on dit du mal de tout le monde, eh bien, ce type-là ne se sentira pas vu. Alors, pourquoi il cherchera à avoir une éthique quand tout le monde l'a mis, quand il est dans le même panier que tous les autres corrompus? Enfin, c'est discutable, c'est fortement discutable, je sais, mais c'était mon point de vue à l'époque et c'est toujours mon point de vue. Moi, je suis contre, par exemple, ici au Québec, qu'on abîme d'injures les hommes politiques. Je suis contre pour deux raisons. D'abord, c'est faux. Les gens, dès qu'ils voient un homme politique à la télévision, ils l'insultent. Dès qu'ils le croisent dans la rue, ils s'empressent de lui donner la main et de trembler en disant « Oh, monsieur le ministre, ils sont tout contents de le voir. » Un homme politique dans la rue, c'est une vedette de télé. Un homme politique qu'on voit à la télévision, c'est quelqu'un qu'on peut insulter parce qu'il n'y a pas de distance. Donc les gens, ils ont une ambivalence qui fait qu'on pense que... Et deuxièmement, je crois que les corrompus adorent cela, voir... qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et ça leur conforte dans leurs idées. Ils finissent par dire à l'autre, tu vois, je t'avais dit, je sais pas de quoi, pourquoi tu fais tant que ça. Tu es pareil à moi. Tu voles, je vole pas et on est vu pareillement. Donc, je crois que même l'individu, quand il dit, moi, dans mon âme et conscience, je sais, mais la politique est une affaire d'apparence aussi. La loi le dit d'ailleurs. Il suffit pas qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait aussi apparence de justice. Il suffit pas que vous soyez honnête, il faut aussi qu'il y ait apparence d'honnêteté. Donc, je crois qu'il faut toujours essayer de mettre le verre dans le fruit. C'était ça ma technique. Dire la vérité, c'était pour moi une façon de militer, en sens que, au moins de les diviser à l'intérieur. Voilà.
C'est pour cette raison, quand tu étais de retour en Haïti en 79, tu avais écrit un dernier article dans le petit samedi soir, si je m'en souviens bien. C'était les chapeaux d'une dictature, en faisant comparaison avec Somoza.
Somoza.
Ouais.
La tête du dictateur. Ouais. Eh bien, merci. Je vois bien que je suis lu attentivement. Merci. Il y a quelques... Oh, vous avez... Oui, merci.
Oui. Bonjour, Dani.
Bonjour.
Mon nom, c'est Solange Poltre-Béliveau. Ma question, c'est comment naît un écrivain? Comment est-ce que vous avez senti que vous alliez écrire? Aviez-vous une vision de de ce que vous alliez devenir? Comment c'est arrivé?
Un écrivain, comment... Enfin, vous savez, ça commence comme pour tout le monde. Mais... Un écrivain naît de la capacité de la personne qui vit avec lui de supporter dans la maison un fou. Et je crois pertinemment que les gens qui ne sont pas soutenus le deviennent difficilement. Parce que c'est une série de sacrifices pour l'autre, parce qu'on est dans un monde difficile. C'est une douleur qui finit par se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a quelqu'un qui vit la douleur et qui ne se transforme pas en art, qui vit la douleur de l'absence. Et en plus... Donc si on n'a pas quelqu'un qui croit, et tout le monde, hein, Je veux dire, même mes filles, quand elles étaient toutes petites, j'écris et mes notes, j'écrivais à la main, mes notes sont partout, mes trucs, enfin, vous savez. Jamais je n'ai perdu une feuille de papier. J'ai eu 3 filles dans la maison, petites. Jamais, c'est-à-dire, c'est pas moi, c'est leur mère qui leur a appris ça. Ça, c'est sacré, touchez pas. Sacré, c'est rien, c'est des gribouillis. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui croit que c'est sacré autour de vous, je ne dis pas que il n'y a pas d'écrivain célibataire, hein. Au contraire. Mais même soi-même, il faut que tu crois que c'est sacré. Quand ce n'est rien, c'est là qu'il faut croire que c'est sacré. Il n'y a rien, c'est pas bon. Comment vous savez que c'est pas bon? L'autre sait que c'est pas bon et les deux ont dit que c'est sacré. Et les enfants le savent. Et donc un écrivain naît d'abord hors de l'écriture. Tout ce qui se passe autour qui va permettre cela. Parce que cela se fait dans le temps. C'est vertigineux. Et je suis même pas grave vieux. Mais je peux remonter à 30 ans. C'est vertigineux de croire que vous allez en être obsédé pendant une 30aine d'années. Et à un moment donné, vous pouvez toujours vivre dans votre obsession, je remets une couche, mais l'autre, qui ne fait que regarder votre obsession et qui n'en est pas le centre, comment vit-il cela? Donc, et en plus, il doit te dire quand c'est bon, quand on est tous d'accord que c'est pas bon. Enfin, vous voyez. Et maintenant, quant à l'écriture elle-même, qui est quand même le sujet, l'affaire, je ne sais pas. Et je crois que c'est un mélange d'une extrême vanité, d'une insupportable vanité, alternée avec des plongées de modestie, enfin d'humilité. C'est un chemin chaotique. Et il faut avoir le cœur solide pour bondir la veille de joie avec l'impression d'avoir touché à quelque chose de sûr, d'avoir fait vivre quelque chose, un paysage, un moment, un dialogue, et le lendemain matin, de se retrouver avec rien. Il s'ensuit, quand ça fait 4 ou 5 accumulations de ce genre, un goût de cendre dans la bouche. Et il faut continuer. Il faut continuer. Et il faut continuer encore. Et même quand ça marche, et quand c'est bien, et quand vous êtes fêté, vous savez très bien que vous n'êtes pas à la hauteur. Les gens qui vous aiment et qui sont dans l'époque voudraient bien qu'un écrivain de leur génération, de leur compagnie, soit très bien. Mais vous savez très bien que rien ne vous empêche de vous comparer à Tolstoï. Et vous savez ce qui arrive quand ça se passe comme ça. Puisque les lettres de l'alphabet sont pareilles pour nous tous et que nous avons bu la démocratie au biberon, il y a toujours cette insouciance de croire que on a une chance aussi. Mais on ne peut pas. Et moi, si j'ai écrit tous ces livres, c'est parce que je vis dans un pays froid où l'on peut écrire longtemps, pendant des mois. Mais je suis sûr que je n'aurais pas écrit 20 livres en Haïti parce qu'il fait trop chaud et que les amis viennent trop souvent vous voir et qu'on se lève trop tôt. J'étais à Port-au-Prince. À 7h du matin, tout le monde est complètement réveillé. À 6h du matin, tout le monde est réveillé, gueux comme riche. Un riche qui se lève à 6h du matin dans un pays C'est pas normal. Hein. Sauf si c'est un entrepreneur. Mais un riche qui sait, parce qu'on ne peut pas ne pas se lever. La ville, il y a une telle vie. D'ailleurs, ils vont tomber à genoux à 2h de l'après-midi aussi. Hein. Là là, vous avez pas vu quelle course! Et puis après, ils s'agenouillent à 2h de l'après-midi. Mais tomber à plat ventre, on les voit d'ailleurs dans les arrière-cours, près des voitures rouillées, endormis complètement, la bouche ouverte, un journal sur le visage. Enfin, vous les voyez bien. Ils vont se réveiller plus tard, là, quand la brune, quand quelque chose. Mais ils tombent, mais vous n'avez pas vu aussi, ils sont là depuis 5h. Ça fait quoi, là, à midi, et ça fait 7h, 5 et 7, 12 à 2h de l'après-midi. C'est 9h d'une folle course. Port-au-Prince, c'est une énorme machine qui s'emballe de 6h du matin jusqu'à 2h. Une course énorme, épuisée. Donc, comment peut-on écrire dans une course pareille où les maisons ont trop de portes qui permettent à des gens de venir vous surprendre chez vous? Voyez ici, hein, les gens passent par une porte. Ils frappent, tu ouvres si tu veux. Eh bien, allez faire ça à Port-au-Prince quand la vie, quand il y a 12 portes à côté, que les gens arrivent par la cour à côté, oui. Les gens arrivent sans s'annoncer.
Oui. Mais il y a la nuit, par
exemple. Ah, la nuit tropicale. La nuit. Non, mais les gens, bien sûr, il y a la nuit, mais comment peut-on écrire longtemps la nuit quand tout le monde est debout à 6 heures? Voyez, c'est, j'ai pas dit cela pour, mais j'ai dit, je comprends pourquoi les œuvres, des fois, ne dépassent pas 5 livres. Surtout en plus qu'après 3 livres, si c'est bon, vous finissez ministre. ou dans le pire des cas, consul à Bornéo. Mais vous finissez avec quelque chose dans la main si vous arrivez à publier dans une grande maison d'édition étrangère, française. Alors là, hein, vous êtes, hein, au moins attaché culturel à Paris. Comment peut-on écrire quand on est attaché culturel à Paris, hein, qu'on vous invite chaque soir dans des petites réceptions? Donc, vous voyez que c'est très difficile. C'est pour ça que Tolstoï existe. Il y a des izbas et l'hiver russe est encore plus rude. Il faut un datcha. Il faut un long hiver. Il faut une peu de dictature. Il faudrait quelque chose qui vous retient à la vie, qui vous empêche de croire que le monde est serein et doux. Il faut beaucoup de choses. Hein. Alors moi, j'ai transporté l'angoisse haïtienne ici, qui me permet de travailler plus longuement. J'ai bénéficié du long hiver, et quand on me laisse un peu de répit, quand il n'y a pas trop de débats sur la question identitaire et ou la question de l'immigration. Et puis voilà, et j'ai bénéficié aussi de cette envie de marquer, de laisser sa marque dans une ville où vous n'êtes pas né. C'est un grand désir, vous savez, l'énergie minoritaire qu'on connaît bien ici, nous, par rapport à l'Amérique du Nord, c'est une énergie. Vous voyez, hein, si on n'était pas minoritaire, ou bien si nous étions pas dit au Québec qu'on était minoritaire, si on n'était pas au courant, on serait un petit endroit où les gens vivent de pêche et autre chose. C'est parce que quelqu'un nous a dit, écoutez, nous sommes minoritaires en Amérique du Nord. Nous n'avons pas la même religion qu'eux. Nous n'avons pas la même langue qu'eux. Nous n'avons pas la même culture. Nous avons une culture latine. Et on s'est dit, ah, boum, quelle énergie. Imagine si on ne nous avait pas dit cela. Bon Dieu. Nous serions même pas des anglophones. On ne nous avait pas dit cela. Donc, et cette minorité, cette énergie minoritaire, la seule énergie qui fait agir. Et cette minorité, j'ai bénéficié de ça, c'est-à-dire l'envie de laisser une trace. L'envie de ne pas se perdre dans une marée, l'envie de ne pas être avalé, eh bien tout ça a peut-être permis de... Oui.
Merci.
Voilà.
Comment c'est la vidéo?
Oui? Oui, bon, on vous pose, sinon ça va durer 1 heure. Hein?
Oups. Bonjour.
Bonjour.
Je suis contente d'être avec vous. Et avec vous tous. Ma question est la suivante. Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. je vois pas comment unir la passion et la nuance. Et c'est pas une question que je vous pose pour une réponse rapide. Je suis certaine que vous y avez déjà pensé.
La passion de la nuance. J'ai la passion de la nuance.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
C'est tout. Merci.
Oui. Je les ai unis, la passion de la nuance. Je suis obsédé par cela. L'idée que les choses sont miroitantes, qu'elles sont multiformes, et je les trouve plus vivantes. Je les trouve... c'est vrai que, je me souviens, quelqu'un avait dit que la passion est un tunnel. Je me souviens de Bougaud, l'avait bien dit d'ailleurs, à sa manière, il a dit les extrémistes, ce sont des imbéciles qui, s'ils ne l'étaient pas, c'est nous qui serions imbéciles. C'est-à-dire, en devenant imbéciles, c'est-à-dire dans un tunnel, ils se battent pour nous, finalement, pour que nous puissions vivre dans un monde plus pluraliste, plus ouvert, où toutes les idées ont une place. C'est vrai, il y a cela, les gens qui ont fait des choses, ce sont les gens qui sont obsédés par un seul point, un seul truc, et qui finissent par pousser le plus loin possible cela. Mais je pense que la nuance est un point aussi, qu'on peut pousser au plus loin, et cette passion-là qui permet, hein, parce que c'est les gens qui ont un seul point aussi, dès qu'ils ont fini de faire le point sur ce point, deviennent comme inutiles et ils se mettent à se répéter, et puis les gens se mettent à fuir. Vous voyez, même quand c'est bien, les gens. Donc c'est pour ça, je suis habité par l'esprit, l'idée que l'esprit est un organisme vivant, qu'il faut toujours le nourrir de tous les angles possibles. Et toujours différent en répétant les mêmes choses. Voilà.
Bonjour, je suis Agnès. Ma question, en fait, concerne... Moi, je suis arrivée, en fait, au Québec et je vous ai découvert comme un écrivain québécois. Puis ensuite, j'ai vu que c'était un terme extrêmement large et j'en étais absolument ravie. Ma question, en fait, concerne tout simplement, en fait, votre passion pour l'écriture. À savoir que moi, au départ, je vous ai découvert surtout parce que vous communiquiez sur cette passion, comme vous le faites aujourd'hui, par exemple, dans des émissions de télévision. Et ensuite, je vous ai lu. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de compiler, en fait, vos communications à ce sujet, ou d'écrire un livre plus généralement sur cette passion de l'écriture, sur cette littérature francophone. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de communiquer cela? Parce que j'ai l'impression que ce que vous écrivez s'inscrit vraiment dans toute cette littérature de la créolité, en fait. Et je me demande si vous aviez cette intention de communiquer à ce sujet de manière écrite, ou voire de communiquer avec ces auteurs comme Édouard Glissant et bien d'autres, pour parler plus largement de cette question identitaire.
Merci, vous avez remarquablement touché tous les points que je refuse de toucher. Et parce que j'étais il y a une semaine, je pense, en Martinique. La créolité, même la francophonie, j'en ai dit des choses pas gentilles. Donc alors, mais ça n'empêche pas que je sois peut-être là-dedans et d'une certaine manière. Mais voilà les choses que j'ai dites qui n'étaient pas gentilles. Je crois, pas dans la réalité des faits, des livres, je crois que la créolité, pour moi, c'est une façon qu'à la Caraïbe francophone de s'adresser uniquement à la France, dans un langage contestataire et riche, vocabulaire riche, varié, qui finalement ressemble à une danse du ventre face à l'ancien colonisateur, ou nouveau, ou présent, ou je ne sais pas. Mais c'est un rapport direct, un axe direct, la créolité. Différent de la créolisation de Glissant, qui est plutôt mondiale. Et pendant que la France elle-même nettoie, et naturellement saluant ce vocabulaire chatoyant, tropical, coloré, nettoie son vocabulaire pour permettre à des traductions en langue étrangère de sa littérature. Chaque fois que quelqu'un vous dit « vous êtes coloré », vous devez le prendre comme une insulte. Et c'est... Je me suis dit... C'est pour ça que si vous regardez bien, même quand je raconte ma culture, mon origine ou les endroits où je suis, je peux écrire... L'odeur du café, on ne peut pas, au cœur, le charme des après-midi sans fin et tout. Et si vous lisez ces livres, vous verrez, il n'y a aucun néologisme et aucun thème qui soit dans ce vocabulaire de créolité, c'est-à-dire un langage un peu un créole transformé en français, au français transformé en créole, tu vois, avec des expressions typiques de belleté. Vous verrez, moi, c'est écrit, c'est commencé, j'ai passé mon enfance à Petit Gouave. Enfin, il faut vraiment chercher, sauf dans le mot Petit Gouave, si on ne connaît pas. Vous savez, les gens qui sont nés à Petit Gouave et qui y vivent, ils voient rien d'exotique là-dedans. Hein. Alors, ils voient, d'ailleurs, j'ai découvert le mot Petit Gouave à Montréal. Il me disait, c'était très banal. Et puis une fois, j'étais au Café Chérier, je parlais à quelqu'un, je lui racontais que je passais mon enfance à Petit Gouave. Ah, quel beau nom! J'ai dit, qu'est-ce que vous trouvez de beau là-dedans? Il me dit, ah, Petit Gouave, ouais. Il me dit, on dirait un fruit et tout. Et puis j'ai commencé à aimer le mot. C'est la première fois que je l'entendais en dehors du fait que c'était Petit Gouave. Hein. Petit Gouave, il était à Petit Gouave. Hein. C'est comme Port-au-Prince, Port-au-Prince. Port-au-Prince. Comment une ville peut avoir un plus beau nom? Un endroit où il n'y a que des princes. Port-au-Prince. Mais nous, en Haïti, on dit Port-au-Prince. Hein? Personne n'entend le mot prince en Haïti. C'est Port-au-Prince. Port-au-Prince. D'ailleurs, le R est tellement mangé que ça fait presque Port-au-Prince. Donc, ça veut dire que c'est dans l'oreille de l'autre. Donc, Petit Gouave, j'ai passé mon enfance à Petit Gouave. Pour moi, montre que je ne voulais pas du tout... de créolité. Je ne voulais pas du tout un espace qui contient son vocabulaire, qui contient sa vision personnelle du monde. Je voulais raconter, et même pas une enfance caribéenne, je voulais raconter mon enfance, tout simplement. Et donc, je n'étais pas du tout dans cet angle-là de que je pourrais appeler défense-illustration. Je ne voulais pas montrer qu'un Haïtien peut avoir une belle enfance aussi. Je racontais mon enfance. Bon, bien sûr, nous savons pourquoi. Et que je parle ainsi, c'est parce que il ne s'agit pas uniquement de moi. Et si Chamoiseau confiant parle autrement, c'est à cause de l'histoire aussi. Ils ont raison de faire comme ils ont fait. Parce que ils établissent une nouvelle réalité. Alors que la créolité a été faite en Haïti depuis l'école de 1836. Des frères No, des frères Ardouin qui déjà dans le journal et disait, il nous faut raconter nos paysages, notre sensibilité, nous défaire de ce lien encombrant avec la France, et ne pas remettre un peu. Donc, cette bataille-là a été faite longuement, et sortir de cette, disons, influence pesante de la culture française sur Haïti, depuis l'école de 1836, ça a été fait. Ensuite, on est tombé dans... l'autre extrême aussi, on est rentré tellement dans notre culture qu'on a créé l'indigénisme et qui a devenu la négritude et qui a fini avec Duvalier d'une certaine manière. Donc, on est allé dans chacune des deux directions, c'est-à-dire la direction de l'autre, au plus haut point jusqu'à perdre son âme, jusqu'à ce qu'en dans le livre Ainsi par la langue, paru en 1928, Price-Mars a dit, attention, nous sommes en train de faire un bovarisme collectif. Nous sommes devenus français sans même connaître la France. Et Price-Mars lui a annoncé un autre voyage collectif. C'est-à-dire, il a imposé l'Afrique. Et nous étions devenus africains sans avoir jamais mis les pieds en Afrique aussi. Ouais. Une telle schizophrénie ne peut que déboucher sur la dictature. Nous sommes habitués à occuper des territoires où nous ne vivons pas. jusqu'à ce que nous soyons devenus un peu plus indigénistes, un peu plus local, et des choses comme ça. Donc ça a permis, si un Haïtien aujourd'hui peut écrire un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais », c'est parce que l'histoire est passée. C'est pas moi qui, physiquement, ai pu me libérer à ce point. C'est l'ensemble des choses. Je suis à la tête, à la pointe de la vague. Et donc, cette question de créolité, non. Cette question de littérature francophone aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les chroniques que je fais, comme vous les avez si gentiment signalées. C'est pas plus qu'un autre. Je parle de Borges, de Tanizaki, je parle vraiment des écrivains du monde entier. J'ai jamais cru dans cette histoire de littérature francophone. Je n'ai jamais cru dans aucune histoire qui ferme les portes. Dans une réalité politique, c'est-à-dire quand, si on n'impose pas une forme de littérature, si on n'impose pas des gens qui, sans cela, ne seraient jamais à la lumière, oui, totalement, oui, je crois, politiquement, dans les choses. Je crois que si on ne met pas l'éclairage sur certaines choses, les gens ne les trouveront pas. Je crois que les choses ne sont pas innocemment étalées dans les librairies. Les livres ne se retrouvent pas innocemment. Et je crois que les livres qui n'y sont pas crient, demandent d'y être. Et je crois que la chose littéraire est tellement complexe que nous n'en savons rien, que nous y allons aveuglément, que sûrement, la plupart des livres que nous devions lire ne sont même pas en librairie. Donc, oui, politiquement, je crois dans la francophonie. Mais je n'y crois pas littérairement. Littérairement, je ne crois pas, et j'en ai parlé une fois dans un truc à Toronto, je crois, avec des écrivains noirs. Vous savez, des fois, il y en a, ils sont tous noirs, ils se réunissent ensemble. Et pour un colloque, ils appellent colloque, mettons, d'écrivains noirs. Et ils font semblant tous de lire que des écrivains noirs. J'ai dit, c'est faux, vous êtes tous des menteurs, là. Et c'est faux, aller dans leur bibliothèque, ils lisent toutes sortes d'écrivains. Je ne pense pas que les gens choisissent les écrivains par question. Certains lecteurs peuvent le faire, militants, mais un écrivain ne le fait pas. Il lit les livres, il peut avoir plus d'écrivains, il s'intéresser plus, des choses comme ça, mais il lit les livres qu'il a envie de lire. Le lecteur est toujours, que tous les autres corps de métier liés à la littérature, le lecteur est toujours le plus libre. Au Québec, on est en train de se battre encore. Je me bats pour qu'on dise que je suis, entre guillemets, un écrivain québécois. Parce que chaque fois que l'expression la plus terrible, c'est néo-québécois. Moi, la seule expression néo que je tolère, c'est néo-nazi. Hein? Mais immigrant, ça n'existe pas au dehors du Québec. Hein? On est immigrant quand on est ici. Je ne peux pas arriver à Paris ou à Berlin et dire « je suis un écrivain immigrant québécois ». Ça n'a aucun sens. Demander de quoi je parle. Et donc, québécois.
Mais vous êtes québécois.
Rien. Mm-hmm. Oui. Donc, québécois. Mais on ne le met pas. Dans les anthologies, ça tombe toujours dans la série vers la fin, écrivain d'aujourd'hui, écrivain immigrant, écrivain... Alors que un écrivain se nourrit de livres qu'il a lus. Vous pouvez être né dans un pays depuis 300 ans, si vous n'avez pas lu les livres que les gens ont écrits, eh bien, vous ne les avez pas lus. Vous pouvez être le cousin de Marcel Proust, vous pouvez être le fils de sa sœur, vous pouvez être habité à côté de lui, vous pouvez être celui qui était sur ses genoux quand il était petit, vous pouvez le connaître comme personne, eh bien, si vous n'avez pas lu La Recherche du Temps Perdu, eh bien, vous ne l'avez pas lu. Et s'il y a quelqu'un à Petit Gouave qui l'a lu, eh bien, il l'a lu. Eh bien, ce type-là, pour Marcel Proust écrivain, il est l'être le plus important, il est doté du plus joli titre, le plus noble, il est un lecteur de Proust. Donc, il faut qu'on délimite, qu'on élimine la proximité physique. C'est précisément ça le fait de la littérature. J'écris pour être aimé quand je ne suis pas là. Donc, on ne peut pas m'astreindre à un territoire, ni à une race, ni à une classe, ni à une société. Ça n'empêche pas qu'il y a des revendications de sensibilité. Ça n'empêche pas qu'il y a des collections. Ça n'empêche pas toutes les organisations sociales ou politiques ou même économiques de la littérature. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque part où la littérature doit dire son fait. Et son fait, il est simple. C'est un vieux vœu, le n'est plus vieux de l'espèce humaine, de pouvoir traverser les frontières, les classes sociales, les races, et de sortir par la fenêtre quand on tente de fermer toutes les portes. La littérature, c'est le rêve d'un homme nu dans une prison couché par terre et qui s'évade par l'esprit. Si c'est pas ça, on est foutu. Parce que si c'est pas ça, on sort d'une prison pour tomber dans une autre. La prison de la race, la prison de la classe, la prison du territoire, la prison de la géographie. Si c'est pas ça, eh bien, le vieux rêve de la littérature qui fait que je peux ouvrir un livre d'Erasme, un homme mort depuis longtemps, et le lire et me sentir en étroit lien avec Erasme, eh bien, on est foutu. Mais ça n'empêche pas, comme je vous l'ai dit, qu'il peut y avoir un combat pour faire montrer une forme de littérature et avec des manières abusives, que j'appelle les collections, les littératures créoles, littérature féministe, littérature noire, littérature québécoise. Si ça permet peut-être de jeter la lumière sur certains livres, sur certains écrivains, nous avalons la pilule. Mais ce n'est qu'une pilule. Merci.
Merci de votre...
Eh bien, nous passons à un moment très succulent aussi, avec la deuxième tranche de cet après-midi. Il y a tous les livres, tout bouge autour de moi, qui sont déjà préparés pour vous tout près de la caisse, donc vous n'aurez pas à faire le tour de la librairie pour les chercher. Il y a tous les autres livres de Dany aussi. Dany sera là. Il nous fait le bonheur, le plaisir, l'honneur de rester avec nous pour vous signer chaque exemplaire. Donc je vois déjà quelqu'un qui s'est préparé.
Est-ce que j'ai un crayon?
Ah non, on va tout apporter ça, Dany. Hein?
Oui, à l'encre. Hein?
C'est ça, exact.
Oui, merci.
Une plume.
Ah bien oui.
Un stylo. Ah, d'accord. Oui. Donc Dany est là, il est là pour vous, donc saisissez-le.
Eh bien, merci.
Merci. Ça, c'est pour un ami, c'est nous.